Radio Okapi. Le journal en français présenté par Belinda Bossouma.
La trêve humanitaire annoncée par les États-Unis d'Amérique, mise à mal sur le terrain des opérations au Nord Kivu. Hier, des violents combats ont éclaté entre le M23 et un groupe armé local dans le Massissi. Ces combats ont forcé certains habitants à fuir cette zone. Grogne des exploitants forestiers du Haut-Katanga. Leurs activités sont suspendues depuis 7 ans déjà à cause de la fraude, mais leurs collègues d'autres provinces exercent normalement. Ils disent ne pas comprendre pourquoi cette mesure n'est toujours pas levée. Vous entendrez leur président. Et puis, Bruno Le Marquis est l'invité de ce journal. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à l'intérim et coordonnateur humanitaire en RDC a clôturé hier sa visite en Ituri. Après échange avec le gouverneur et les comités des déplacés à Djougou, il estime que la situation des déplacés reste catastrophique et il faudrait des solutions durables. Madame, Messieurs, bonjour. La trêve humanitaire des 2 semaines annoncée il y a 6 jours par les États-Unis d'Amérique, mise à mal sur le terrain des opérations au Nord Kivu. Hier mercredi, des violents combats ont éclaté entre les rebelles du M23 et un groupe armé local dans l'ouest du groupement de Bachali Mokoto dans le Massissi. Cette poussée de fièvre, au dire de plusieurs sources locales, brise la calmie observée depuis plusieurs semaines dans cette zone. Bernardin Nyangi revient sur la situation qui a prévalu hier sur le terrain dans ce reportage.
C'est autour des 5 heures locales que ces combats ont éclaté dans les villages Nyangi et Biboué, entre autres, dans cette partie du territoire de Massissi. Des sources sécuritaires et coupées indiquent qu'après quelques heures de combat, les rebelles du 1-23 qui ont lancé l'attaque auraient pris le contrôle total du village Nyangi et réussi à déloger le groupe armé Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains ANCDH de Jean-Marie Bonané de son quartier général de Kitso, à 9 km de Nyangi. Dès le début d'après-midi, les combats se poursuivaient autour de Biboué, à 4 km au-delà de Kitso. Nos sources craignent que les rebelles n'aient l'intention d'attaquer le chef-lieu du territoire de Massissi par le nord. D'autres acteurs locaux parlent déjà de la violation par les rebelles du 1-23 de la trêve humanitaire de 2 semaines, observée depuis la nuit du 5 au 6 juillet dernier sur recommandation du gouvernement américain. Ces combats ont forcé d'autres habitants à fuir cette zone pour aller s'abriter vers Lukweti et d'autres villages plus sécurisés. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, les autorités appellent toutes les communautés à la cohésion sociale au Nord Kivu. Unies, elles feront échec aux manœuvres divisionnistes des ennemis de la République, affirme-t-elle. Appel lancé mardi à Goma au cours d'une rencontre interculturelle organisée par le Baraza Lawaze, structure provinciale qui réunit toutes les communautés de cette province. Rosalie Zawadi signe ce reportage.
Entre chants et danses, les notables ont pris le temps de réfléchir à l'insécurité au Nord Kivu afin de dégager des propositions pour une solution à la crise actuelle. Le gouverneur de province, le général-major Peter Chirimwami Kuba, a salué la volonté de toutes les communautés d'œuvrer ensemble pour la paix.
La diversité culturelle de notre pays constitue une très grande richesse et une force qui fait souvent peur à certains ennemis de la paix qui cherchent en vain à nous diviser sur des bases communautaires. C'est pourquoi j'encourage des activités culturelles de ce genre, car elles nous permettent de renforcer notre cohésion sociale et de nous liguer comme un seul homme face aux manœuvres divisionnistes.
Malgré leur engagement à travailler pour la paix, certains acteurs estiment que la résolution du problème sécuritaire du Nord Kivu dépasse la responsabilité des communautés. Ezekias Paloukoumouhaya est l'un d'eux.
Le Nord Kivu est insécurisé, pas par les enfants du Nord Kivu. Il y a 3 groupes que nous ne contrôlons pas. Les EDF, ce sont des Ougandais. Les FDLR, ce sont des Rwandais. Les M23 sont des Rwandais. Alors, à ce moment-là, c'est une question vraiment au-delà des barrages.
Goma. Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la province de la Tchopo, les populations de Piengé et de Balobé, en territoire de Bafoua-Siende, commencent à regagner progressivement leur milieu. C'est à plus de 260 km à l'est de Kisangani. Ces personnes avaient fui leurs entités la semaine dernière à la suite des affrontements répétés entre 2 groupes armés dont les chefs se disputent le contrôle de cette région riche en or. Alors que les responsables administratifs de Bafoua-Siende s'inquiétaient du retard pris par l'intervention des autorités provinciales face à cette situation, le comité provincial de sécurité élargi à la 3e zone de défense calme les esprits. Jacques Moukonkolé.
Les habitants de Balobé et Opiengé avaient fui leur localité depuis la semaine dernière suite à l'avancée d'un certain Chokoro, un des chefs Mai Mai, qui se dispute le contrôle de cette région avec le surnommé Maradona, fils du général autoproclamé Feu Luc Yabili. Des sources de la société civile rapportent que des boutiques ont rouvert leurs portes et la vie reprend petit à petit. Les mêmes sources déclarent que Maradona a repoussé son rival après lui avoir infligé beaucoup de pertes dans ses rangs. Alors que dans la région, l'opinion voit en Chokoro un allié des M23 qui chercherait à s'infiltrer dans la Tchopo, le comité provincial de sécurité calme les esprits. Lors d'une réunion de sécurité extraordinaire élargie à la troisième zone de défense, organisée mardi au gouvernorat des provinces, le commandant de cette entité militaire a rejeté les allégations relatives à la présence supposée du M23 dans cette entité. Concernant les exactions de population par les Mai Mai, le lieutenant-général Marcel Mbango a déclaré que des dispositions sont prises avec la haute hiérarchie pour permettre à la population d'évacuer paisiblement à ses occupations. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La journée internationale consacrée à la destruction des armes légères et petits calibres est célébrée le 9 juillet de chaque année. Dans ce cadre, au Congo central, la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres a procédé à la destruction de plusieurs armes, cérémonie présidée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur en présence du gouverneur Grace Bilolo. C'était à l'esplanade du camp de la police nationale congolaise à la cité de Kasangoulou. Le point avec Nana Plurish Mambo.
Ces armes légères et petits calibres détruits ont été récupérées entre les mains des assaillants et un civique, a indiqué John César Bofaka, responsable de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres et de la réduction de la violence armée. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui a donné le go de leur destruction, a affirmé que ces armes sont à la base de plusieurs meurtres. Jacquemain Chabani.
Les armes légères sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher. Leur accumulation a une grande responsabilité dans l'aggravation des tensions. Cette prolifération est la cause directe de nombreuses violences, homicides, tortures, viols et d'autres mauvais usages. Et à cause de ce trafic, près de 500 000 personnes sont tuées chaque année par armes à feu, que ce soit ou non en temps de conflit.
Dans son adresse, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a salué les efforts fournis par les chefs de l'État pour le maintien de la paix en RDC. Il a par ailleurs invité les forces de l'ordre du Congo central afin de lutter contre l'insécurité. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Cap sur le Grand Équateur. L'armée réunit les jeunes en atelier de formation sur la relation civilo-militaire en vue de quitter la délinquance juvénile. Cela se passe à Dongo, localité située à 230 km de Gemena, en face de la République du Congo. Dongo est l'une des plaques tournantes de la province du Sud-Ubangi, mais également un point chaud lors des différents conflits armés dans la région. Cette localité abrite actuellement un poste stratégique des FARDC. Paul Richard Malengela, reportage.
En quoi le colonel Lotika de FRDC, la relation civilo-militaire doit se caractériser par une parfaite collaboration FRDC-population, mais aussi par l'appui tous azimuts à la lutte contre la délinquance juvénile, laquelle reste un facteur de trouble entre les deux composantes. D'où la sensibilisation menée par cet officier auprès des acteurs de la société civile et des jeunes de Dongo, afin d'aider ces derniers à quitter l'état de la délinquance, car le pays attend d'eux une vie autonome et responsable et qu'ils quittent la dépendance parentale dès l'âge de 25 ans révolu, a-t-il souligné. Ainsi, le colonel Lotika a mis en garde contre les facteurs qui engendrent la délinquance juvénile et détruisent la collaboration entre les hommes en uniforme et les civils. Parmi ces facteurs, l'officier militaire cite une longue chevelure débraillée et mal soignée, le recours aux drogues, le port des tenues prohibées à l'instar du Pentagone pour se comparer aux militaires, le port des habits courts ou déchirés qui ne couvrent que partiellement les parties intimes. Présent à l'atelier, le chef du secteur de Dongo et le chef du groupement Monzombo ont salué l'initiative, car elle va les aider à bien encadrer cette frange de la population difficile à administrer. Bondaka pour Chamalengela, Radio Okapi.
autre nouvelle, je vous le disais en titre, les exploitants forestiers du Haut-Katanga sont en colère. Cela fait exactement 7 ans que leurs activités sont suspendues. Après une si longue période, ils affirment ne pas comprendre pourquoi cette mesure n'est toujours pas levée. Il est incompréhensible que cette mesure ne s'applique que dans la province du Haut-Katanga, pendant qu'ailleurs, cette activité s'est faite sans encombre, font-ils remarquer. Manager Mbenga, président des exploitants forestiers du Haut-Katanga, explique la situation au micro de Jean Gandou.
On nous a privé de notre métier, non seulement nous, les exploitants qui restons dans la ville de Lubumbashi, mais aussi et surtout la population riveraine qui ne vit que de ça, pour éviter aussi des exploitations abusives, pour éviter aussi la fraude dans l'exploitation forestière. Nous dénonçons la non-levée de cette mesure. Nous nous adressons à qui de droit pour pouvoir se pencher sur cette question et prendre une décision juste pour tout le monde. D'autant plus que dans toutes les autres provinces de la République, l'exploitation forestière s'est faite, à part dans le Haut-Katanga, où on ne sait pas travailler dans la fraude que nous dénonçons. Cette non-levée de la mesure de suspension, une mesure conservatoire qui n'a que trop duré, qui a maintenant fait 7 ans, et ce n'est pas normal qu'une mesure conservatoire prenne aussi longtemps.
Dans l'actualité aussi, la RDC face au défi de la transparence financière, c'est le thème du tout premier congrès de 2 jours qu'organise l'Ordre national des experts comptables. Pendant 2 jours, soit jeudi 11 aujourd'hui et demain vendredi 12 juillet, l'ONEX se propose de mieux faire connaître au public la nature de la profession et le rôle de l'expert comptable dans la production et la certification de l'information financière. Au micro de Daniel Tambinzoni, Benjamin Nzailou, le président de l'Ordre national des experts comptables, ONEC RDC, explique qui est expert comptable.
En fait, un expert comptable, c'est quelqu'un qui doit avoir la maîtrise de plusieurs matières. Et je crois que vous avez raison de poser cette question. Cette question est même à la base de beaucoup de confusion dans les prétentions que les gens ont pour accéder à notre ordre. Parce que certains pensent qu'il suffit d'avoir tenir une comptabilité et on devrait avoir le droit d'être membre de l'ordre. Non, c'est plus que cela, parce que quand vous regardez le cursus qui est imposé pour la formation d'un expert comptable, c'est quelqu'un qui doit être capable de conseiller ses clients, pas seulement en matière de comptabilité, mais de façon générale, en matière de gestion des risques, et même aider les clients d'un point de vue de sa stratégie. Donc c'est une formation qui est beaucoup plus complète que la formation d'un comptable.
En plus bref, sachez que le service antifraude est interdit d'exercer sur l'ensemble du territoire de l'Ituri. La décision est de la procureure générale près la cour d'appel. Dans sa correspondance du 5 mai dernier rendue publique hier, l'autorité judiciaire accuse ce service de l'État de prester en violation de la loi et de tracasser les opérateurs économiques. En réaction, la Fédération des entreprises du Congo FEC Ituri s'est réjouie de cette décision qui, selon elle, contribue à assainir le climat des affaires. L'ambassade de Norvège en RDC a organisé hier mercredi à sa résidence à Kinshasa une soirée pour célébrer le programme d'échange éducationnel entre les deux pays, programme axé sur la nutrition. Il s'agit d'un partenariat entre l'UNIKIN et l'université norvégienne de Bergen. À cette occasion, quelques étudiants boursiers de ce programme, ressortissants du département de la santé publique de l'université de Kinshasa, ont fait la restitution des connaissances acquises lors de leurs études de master en nutrition en Norvège. Parmi ces boursiers, mademoiselle Aurore Béa, elle explique l'utilité de ce master pour les Congolais au micro de Jeff Ngoy.
En Norvège, plus précisément à l'université de Bergen, qui est la deuxième ville, la plus grande deuxième ville de Norvège. Et donc là-bas, j'ai bénéficié de leur système éducatif qui est en particulier très interactif. C'est un système éducatif où l'étudiant justement est, si je peux dire, la star de l'enseignement. Il est au centre de l'enseignement et tout est basé autour de l'étudiant. Et l'étudiant a sa place, il a un mot à dire. Et donc la richesse, elle n'est pas qu'humaine, mais elle est aussi scientifique parce que c'est aussi plusieurs universités que vous embrassez en un seul endroit, plusieurs systèmes éducatifs différents aussi que vous découvrez en un seul endroit. Et ça vous permet donc, quand vous revenez dans votre pays, pas que d'apporter le savoir intellectuel que vous avez reçu en Norvège, mais aussi d'apporter cette innovation du point de vue éducation, du point de vue méthodologie ou pédagogie d'enseignement.
Actualité internationale.
Le président camerounais Paul Biya obtient l'approbation des législateurs pour repousser les élections législatives et locales jusqu'en 2026, une décision que les partis d'opposition craignent car, disent-ils, cela va compliquer leur capacité à contester l'élection présidentielle de l'année prochaine. Ce report a été justifié par la nécessité d'alléger le calendrier électoral. Selon le ministre délégué à la présidence, le pays ayant initialement prévu 4 scrutins pour l'année prochaine, y compris celui des conseils régionaux. À 91 ans, Paul Biya est l'un des présidents africains les plus anciens. Succédant à Amadou Ahidjo en 1982, il a remporté une série d'élections, dont la dernière en 2018.
L'invité.
Il s'agit du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'intérim et coordonnateur humanitaire en RDC. Il a clôturé hier sa visite de 72 heures en Ituri. Sur place, Bruno Lemarquis a notamment échangé avec le gouverneur ainsi qu'avec les comités des déplacés dans le territoire de Djougou pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. Invité de ce journal, il s'entretient avec Ezekiel Mousalia.
Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Vous venez de clôturer aujourd'hui votre visite de 72 heures à Bounia. Je le précise, elle n'est pas la première. Quel constat faites-vous globalement de la situation humanitaire dans la province de l'Ituri?
Alors, durant cette visite, on a fait plusieurs choses. D'abord, c'était pour se rendre compte, encore une fois, discuter avec tous les partenaires humanitaires et prendre la mesure des défis par rapport à la situation humanitaire. Comme vous le savez, cette situation humanitaire est assez dramatique dans l'est de la République démocratique du Congo, et notamment en Ituri, où à peu près 40% de la population est déplacée dans la province. Mais néanmoins, nous avons, à travers nos conversations, y compris avec les populations, enregistré un certain nombre de progrès dans certaines des zones qui étaient affectées par l'insécurité et par les conflits.
Alors, que peut-on retenir des échanges que vous aviez eus, notamment avec le gouverneur de province, sur la situation sécuritaire et humanitaire dans cette province de l'Ituri?
Donc le gouverneur de la province nous a expliqué tous les efforts qui sont en cours en termes de cohabitation pacifique, en termes de réconciliation entre les communautés, en termes de médiation, notamment avec l'initiative qui a été initiée par le ministre national de la Défense, en travaillant avec le PDDRCS, qui a conduit à la signature d'un certain nombre d'actes d'engagement avec certains groupes. Ça, c'est une chose. Et puis aussi des efforts qui ont été appuyés par la province, avec l'appui de partenaires, notamment la MONUSCO, pour mettre en place des équipes de médiation qui ont assisté à un certain nombre de dialogues communautaires. Néanmoins, il nous a aussi décrit qu'à l'ouest du territoire de Djougou, notamment, la situation sécuritaire se dégrade autour de Mongwalou, autour de Kilo, autour des Cariminiers notamment, avec des affrontements entre les groupes armés. Et chaque fois qu'on parle d'affrontements entre groupes armés, etc., on parle de nouvelles personnes déplacées. Donc ça s'améliore un petit peu d'un côté, mais ça se dégrade de l'autre.
Vous avez rencontré justement les comités de déplacés dans le territoire des Djougou, et qui pensent qu'il est très précaire d'envisager un retour dans leur village d'origine. Ils attendent toujours de l'aide humanitaire, suspendue depuis déjà une année, dans plusieurs sites. Quelle est votre réaction?
Alors d'abord, pour clarifier, il n'y a pas eu de suspension de l'aide humanitaire. Mais il y a une pression, compte tenu du manque de moyens que nous avons, à répondre à tous les besoins en République démocratique du Congo, en Ituri et ailleurs. Oui. Donc le plan de réponse humanitaire au niveau de la RDC, pour le moment, n'est financé qu'à 25%, c'est-à-dire que nous n'avons reçu qu'un quart des ressources nécessaires pour répondre à tous les besoins des personnes vulnérables qui vivent notamment en situation de déplacement. Donc c'est vrai que sur le terrain, ça se traduit par une aide humanitaire qui n'est pas à la hauteur des besoins, et les déplacés le vivent dans leur chair, puisque les distributions, par exemple, ou les programmes de cash, les programmes d'eau, assainissement, etc., ne sont pas financés à la hauteur. D'où notre plaidoyer constant, au niveau national, au niveau international, pour que la crise humanitaire en RDC soit moins négligée.
La situation sécuritaire reste précaire en Ituri, en dépit des quelques efforts du gouvernement pour établir la paix dans certaines localités sous occupation de groupes armés. Comment entrevoyez-vous dans l'avenir la situation humanitaire dans la province de l'Ituri, surtout dans ces contextes d'insécurité, d'agression à l'est, du pays, mais aussi du désengagement de la MONUSCO.
Bon, on espère que tous les efforts qui sont faits par le gouvernement de la RDC, par les autorités provinciales, portera des fruits. Il faut jamais baisser les bras. La meilleure manière de répondre à une situation humanitaire, c'est de tout faire pour baisser les besoins humanitaires. Par rapport au retrait de la MONUSCO, il n'y a pas encore une date de départ pour la MONUSCO de l'Ituri, comme il n'y a pas encore une date du départ de la MONUSCO du Nord Kivu, puisque c'est un processus graduel, responsable et organisé, et tout doit être fait pour que l'État congolais et les autorités provinciales, les institutions congolaises, soient aussi équipées que possible à se préparer pour ce retrait de la MONUSCO. Donc cette réunion qui vient d'avoir lieu, c'est vraiment pour reprendre la planification de ce retrait et la planification de la transition.
Bruno Lemarquis, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à l'intérim et coordonnateur humanitaire en RDC répondait aux questions de Ezekiel Mouzalia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.